Vous écoutez RTL.
Et tout de suite, une expérience dans la curiosité. On va essayer de se passer de supermarché. Bonjour Mathilde Gola.
Bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue.
Merci.
Vous êtes journaliste éco au Figaro et vous êtes lancé un défi fou. En quoi consiste-t-il ?
Alors en fait, je m'étais imposé la règle de ne pas mettre les pieds dans un supermarché ou tout type de supérette, Biocoop, enfin toutes les grandes surfaces pendant 100 jours. Alors en fait, l'idée de base, c'était de voir si ça pourrait profiter aux producteurs.
Quel a été le déclic ? Qu'est-ce qui vous a lancé dans cette aventure un peu folle quand même et un peu compliquée ?
Ouais, au départ, ça paraît compliqué, mais vous allez voir, ça ne l'est pas tant que ça, finalement. Et en fait, c'est la rencontre avec un agriculteur qui m'a donné ce déclic. En fait, moi, je suis normande et au détour d'un de mes passages en Normandie, j'ai rencontré un agriculteur et j'étais un peu surprise parce qu'il était en train d'arrêter son activité, de vendre ses outils, de vendre ses machines, de vendre ses vaches, de tout vendre. Et je ne comprenais pas parce que ce n'était pas le moment pour lui d'arrêter. Il n'avait pas l'âge de partir à la retraite et je lui ai posé des questions et il m'a dit qu'il anticipait son départ à la retraite parce qu'il perdait de l'argent tous les mois. Il travaillait 14 heures par jour, 7 jours sur 7, il n'avait jamais pris de vacances et pourtant il vendait toute sa production à perte parce qu'il vendait toute sa production à la grande distribution. J'ai pris un peu de recul, j'ai voulu savoir si c'était un cas exceptionnel ou si cette situation était répandue en France et j'ai réalisé qu'il y avait un agriculteur sur 5 en France qui perd de l'argent en exerçant son métier. J'étais assez édifiée et je me suis demandé s'il n'y avait pas une solution.
Et c'est vrai, la solution, vous allez nous la détailler dans un instant. Finalement, on a un pouvoir, nous, consommateurs, par les choix qu'on fait quotidiennement, là où on va acheter et à qui on achète les produits que l'on consomme. À tout de suite sur RTL.
Le nombre de producteurs qui utilisent la vente directe ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, c'est près d'un agriculteur sur 5.
RTL.
Le circuit court, ça permet 3 choses. Ça permet déjà aux consommateurs de savoir ce qu'ils ont dans leur assiette et d'être rassurés quant à la traçabilité. Ça permet aussi aux producteurs, aux paysans, de vivre décemment de leur travail et de vendre leurs produits à un prix juste.
La curiosité est un vilain défaut.
La troisième chose, elle est écologique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'envoyer des cargos, des avions à l'autre bout du monde pour aller chercher ce qu'on mange tous les jours.
Sidonie Bonnec, Thomas Huc.
Peut-on vivre sans supermarché ? C'est la question que notre invitée s'est posée, Mathilde Gola, journaliste éco au Figaro. Et elle s'est lancée dans cette expérience à corps perdu pendant 100 jours. Vous êtes vraiment organisée, vous êtes dit déjà, je ne mets plus les pieds dans un supermarché, une supérette, même une supérette bio, c'est dire. Qu'est-ce que vous aviez l'habitude d'acheter au supermarché pour bien comprendre de quoi vous êtes privée ?
J'avais l'habitude d'acheter beaucoup de choses en supermarché. J'achetais seulement quelques fois mes légumes sur le marché, mais en fait, voilà, j'étais pas vraiment dans une consommation alternative. J'étais, comme tout un chacun, une consommatrice relativement classique, en fait.
Alors, vous dites, je ne mets plus les pieds au supermarché, oui, ni dans les petites boutiques, les magasins. Là, il faut, par exemple, commencer à remplacer et à trouver ces fruits et légumes.
Oui.
Vous vous tournez vers qui ?
Alors, tout bonnement, je me suis d'abord tournée sur les marchés. Je suis d'alors allée sur les marchés. J'étais alors à Marseille pour au lancement de ce défi. Et donc, j'ai acheté mes produits auprès d'un grossiste. Et là, ça a été ma première erreur, puisque le défi, en fait, visait vraiment à privilégier les producteurs et donc à essayer de sélectionner des solutions de circuit court. Et une fois que j'avais fait mes achats auprès de ce grossiste, je me suis rapidement rendu compte que finalement, j'étais pas du tout dans une situation de circuit court.
Parce que lui, il va chercher ses produits très loin, c'est ça ?
Voilà, exactement. Et puis, il y a plusieurs intermédiaires qui interviennent avant que les produits arrivent sur son étal.
Mais sur Mathilde Gola, sur un marché, comment on fait la différence entre un grossiste et un petit producteur ?
Et du coup, c'était ma première leçon, en fait, c'était d'apprendre à détecter les producteurs et notamment les maraîchers. Alors, en général, les producteurs sont assez fiers de l'être, donc ils l'affichent sur leur stand, on le voit en gros écrit maraîcher. Et puis, si jamais c'est pas le cas, on peut poser des questions et puis il y a quelques indices qui peuvent nous mettre sur la voie. Par exemple, quand on voit qu'il y a des fruits exotiques sur un stand, on peut avoir des doutes sur la provenance locale de ce type de produit. Ensuite, il y a aussi des indices un petit peu plus cachés. Par exemple, si on voit que le vendeur a les mains pleines de terre, qu'il semble avoir des mains de travailleurs, voilà, là, on est vraiment sur la piste.
Plutôt que des doigts manucurés.
On devient le Sherlock Holmes des marchés, c'est très bien. Ça a des conséquences sur ce que vous consommez, forcément.
Exactement.
Par exemple, des fruits et légumes de saison, c'est une évidence, mais c'est...
Voilà,
en fait, c'est pas c'est pas si simple, quoi. Il faut s'y habituer.
Oui, effectivement, c'est pas si simple. Au départ, moi, je m'étais pas forcément posé beaucoup de questions. Je me suis lancée un peu comme ça dans le défi. J'ai appris au fur et à mesure.
Est-ce que ça appauvrit la variété de ce que vous avez mangé?
Oui, effectivement. Notamment les fruits exotiques en plein hiver, il faut les oublier. Même les tomates ou les fraises, maintenant, je pense que peu de gens en consomment en hiver, mais évidemment, il faut les oublier. Mais par exemple, aussi les oranges en plein hiver en Île-de-France, c'est pas un fruit de saison. Donc, il faut faire une croix dessus. Mais par contre, si on se renseigne un peu, par exemple, en plein mois de février, on a quand même 34 variétés différentes de fruits et légumes. Donc, ça laisse quand même une place à une certaine diversité. La grande difficulté, en fait, c'est d'accepter de revoir ses habitudes et ses réflexes.
Alors, on revoit nos habitudes avec vous, Mathilde Gola, 100 jours sans supermarché. On va au marché pour acheter ses fruits et légumes, mais il n'y a pas que ça. Quelles sont les autres solutions?
Alors, il y en a vraiment beaucoup et il y en a de plus en plus qui se développent sur tout le territoire parce qu'en fait, un circuit court, une solution de circuit court doit faire intervenir maximum un intermédiaire entre le consommateur et le producteur. Donc, ça laisse quand même une large palette de variétés de solutions possibles. Donc, on a parlé des marchés. Il y a aussi les épiceries paysannes qui se développent vraiment, qui sont en plein essor sur tout le territoire.
Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. J'en ai même jamais entendu parler.
Oui, alors en fait, c'est très simple. Ce sont soit des producteurs qui se regroupent pour vendre ensemble une variété de produits et offrir ainsi une diversité aux consommateurs, soit c'est une personne qui a un petit local et qui propose comme une petite boutique tous les produits en direct, plus ou moins, des agriculteurs de la région.
Il y a sur Internet, il y a des applications.
Oui,
il y a...
exactement. Les épiceries paysannes se signalent de plus en plus. Donc, c'est de plus en plus facile en fait de les trouver. Après, il faut un petit peu chercher sur le web pour trouver les solutions, effectivement.
Il y en a dans toutes les régions.
Toutes les régions où je suis allée, moi, pour le défi, j'en ai trouvé, effectivement. D'accord. Même dans les régions les plus rurales, finalement, là où on s'attend peut-être moins à les trouver.
Mathilde Gola, on fait tous attention à notre porte-monnaie et à toutes les pièces qui sortent. Est-ce que ça coûte moins cher de passer par le fermier, par les épiceries paysannes, par le marché, plutôt que le supermarché?
Exactement. Alors, en fait, moi, j'étais partie du postulat que je dépenserais plus et je voulais savoir combien. Et finalement, la conclusion plutôt inattendue, c'est que j'ai dépensé moins. Alors, on a bien souligné que j'avais dû revoir beaucoup d'habitudes, mais j'ai aussi dû faire pas mal de choses moi-même, donc j'ai beaucoup plus cuisiné, mais j'ai aussi fait mes propres produits d'entretien, ma lessive par exemple.
On va raconter ça en détail.
Voilà. Et c'est tout, en fait, le fait de mettre un peu plus la main à la pâte qui m'a permis en fait de faire baisser l'ensemble de la note de ce que je pouvais dépenser.
100 jours sans supermarché, le premier guide des circuits courts, c'est le titre du livre que vous publiez aux éditions Flammarion. Mathilde Gola, plein d'autres bons plans à venir dans un instant sur RTL.
Bonjour, c'est Christelle Rebière.
Bonjour, c'est Stéphane Carpentier.
RTL Midi.
RTL Midi, c'est tous les jours le grand carrefour de l'information à la mi-journée.
90 minutes pour vivre en direct l'actualité, mais surtout pour mieux la comprendre.
Explications, décryptage pour aller au fond des sujets avec la rédaction et nos invités.
Sans oublier vos commentaires, vos témoignages. RTL Midi, c'est avant tout votre émission.
Nous attendons vos appels au 3210 et vos réactions sur la page Facebook Les Auditeurs ont la parole et le compte Twitter RTL Midi.
RTL Midi, 12h30, 14h, avec Christelle Rebière et Stéphane Carpentier, débattre pour mieux comprendre l'actualité. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
100 jours sans supermarché, c'est l'expérience de notre invitée, la journaliste Mathilde Gola. Je vais vous faire un aveu. Mathilde, vous me faites culpabiliser parce que ce que vous avez réalisé, ça fait des mois que je me dis qu'il faut absolument que je réussisse à aller vers ces circuits courts.
Mais vous n'aviez pas le livre et le guide de Mathilde, c'est
voilà,
pour ça.
Maintenant, je vais vraiment pouvoir passer à la vitesse supérieure dans ces circuits courts. Donc, on a dit le marché en faisant attention de bien repérer les producteurs locaux, la ferme évidemment si c'est possible, les épiceries paysanne dont vous nous avez parlé. Et il y a une autre solution, ce sont les AMAPS. C'est quoi les AMAPS? Comment ça marche?
Alors, l'AMAPS, ça veut dire l'association au maintien à l'agriculture paysanne. Donc, c'est essentiellement des produits bio. Et alors là, c'est ce qu'il y a de la solution la plus militante, je pourrais dire, quand on se tourne vers les circuits courts, parce que là, il faut prendre un engagement, une forme d'abonnement, comme un abonnement téléphonique, à l'année ou pour 6 mois. Enfin, on peut choisir tout type d'engagement. Et on s'engage auprès du producteur à lui acheter un panier par semaine, un panier tous les 15 jours. Enfin, après, on définit.
Et on a le choix du contenu du panier ou
non,
pas vraiment?
Par contre, en fait, c'est le producteur qui constitue le panier à base uniquement des produits de saison. Alors, c'est très confortable pour lui parce que ça lui permet d'avoir de la visibilité sur sa production, de savoir qu'il ne va pas produire à perte. Et donc, c'est une solution tout à fait ingénieuse pour les producteurs et qui leur sauve vraiment la vie. C'est un peu plus engageant du côté du consommateur parce qu'il faut, on prend donc un abonnement, on a un panier par semaine ou un panier tous les 15 jours. Et ensuite, on ne sait pas forcément ce qu'on a dans notre panier. C'est
et
un
moi,
peu
ça
la
me
surprise
fait hésiter,
du chef.
Ça, parce que j'ai peur de gâcher, du coup. Vous voyez, il y a deux. Parce que gâcher, c'est quelque chose qui m'énerve aussi profondément.
Oui,
et donc,
oui.
Je me dis, si je ne choisis pas les produits, bon, ben, peut-être qu'il y en a que j'aimerais pas et que je ne vais pas consommer. Vous voyez
c'est
ce que je veux dire.
C'est un des inconvénients, justement, de cette solution-là. Elle est très confortable pour les producteurs. Elle l'est peut-être un peu moins pour les consommateurs. Après, il y a plein d'avantages aussi. Il faut un peu plus mettre la main à la pâte. En fait, il faut, par exemple, tous les adhérents aux AMAP s'engagent à travailler quelques heures par mois et ils constituent eux-mêmes les paniers. C'est intéressant parce que ça crée du lien social.
Et
des
puis,
gens
c'est peut-être aussi un peu l'occasion de goûter autre chose, de sortir de ses habitudes,
Exactement.
Thomas.
Oui, ça permet de découvrir des légumes qu'on n'a pas l'habitude de consommer, effectivement.
Et ben, grâce à vous, Mathilde Gola, j'ai aussi découvert les supermarchés et les épiceries coopératives.
Oui.
Qu'est-ce que c'est ? Comment
Alors, ça
fonctionne ?
Alors ça, c'est en plein boom aussi. En fait, il y en a partout, ça se développe partout en France. Et ce qui est assez surprenant, c'est que le concept vient des États-Unis. Aux États-Unis, c'est un succès grandissant. Et en fait, le principe, c'est que des consommateurs se regroupent et ils ne sont plus uniquement clients, mais ils sont actionnaires d'une petite épicerie. Ils choisissent ensemble les produits qu'ils veulent consommer et qu'ils veulent mettre en rayon. Et ensuite, ils doivent s'investir un petit peu, ils doivent donner un peu de leur temps, à la fois donc, pour choisir les produits, tenir la caisse, mettre en rayon. Et ensuite, ça permet de faire grandement diminuer le prix des produits. On considère que les produits dans ce type d'épicerie coûtent 20 à 40% moins cher. Et c'est logique, puisqu'il y a très peu de main-d'œuvre.
Alors moi, j'ai du mal à me déplacer et je fais pas mal de choses par Internet. Je sais que certains trouvent ça pathétique, mais c'est comme ça, on fait comme on peut. Et je me posais la question, est-ce que parce que moi aussi, je suis pour ce circuit court, valoriser les producteurs, est-ce que je peux utiliser Internet pour faire mes courses ?
Ah oui, bien sûr. Effectivement, c'est là une des grandes solutions novatrices qui émergent en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup de plateformes numériques qui proposent une solution. En fait, il y a pratiquement une solution pour tout.
Par exemple, la viande. J'adore la viande.
Exactement. Et bien justement, il y a une plateforme numérique qui s'est créée il n'y a pas très longtemps et qui propose des cajots de viande ou des morceaux de viande de qualité. Voilà, on est livré à domicile. Alors, le mieux, en fait, c'est de se faire livrer une quantité plus importante de viande. On en congèle une partie et puis ensuite, on consomme de la viande de qualité un peu quand on veut, au moment opportun.
Je parlais du risque de gâchis. En quoi ça a transformé cette expérience 100 jours sans supermarché, votre façon de vivre? Est-ce qu'il faut anticiper? Qu'est-ce que ça a changé concrètement?
Exactement. C'est effectivement un des grands enseignements que j'ai pu tirer de l'expérience, c'est qu'on est, contraint de planifier davantage sa consommation. On ne peut pas se rendre au dernier moment dans une épicerie paysanne ou sur un marché de producteurs. Il faut prévoir ses repas, il faut planifier. Mais en contrepartie, on gaspille beaucoup moins finalement puisque tout est prévu à l'avance. Donc c'est un moyen de réduire le gaspillage alimentaire.
Je trouve ça super. À la fois, je me dis, oh là là, s'il faut que je me pose le dimanche soir et que je fasse tous mes repas de la semaine, enfin, j'ai un peu la flemme pour tout dire. Ça prend du temps de faire ça ?
Ça prend un peu plus de temps, effectivement. Enfin, surtout ce que ça demande de revoir un peu sa façon de consommer. Donc après, une fois qu'on a pris le pli, finalement, c'est pas forcément plus compliqué. C'est juste que, voilà, il faut changer ses habitudes, il faut revoir ses réflexes, il faut penser autrement. Mais finalement, ça vaut vraiment le coup. Parce qu'effectivement, on passe plus de temps, mais on apprend tellement. Et les produits qu'on consomme par ce biais-là sont vraiment meilleurs. Ce sont vraiment des produits de qualité.
Vous sentez au palais ?
Oui, là, c'est fou. Vraiment, la qualité, elle est vraiment au rendez-vous. Et je l'ai même senti des conséquences en termes de santé.
Ah oui.
Oui, parce que du coup, moi, j'ai ces produits de qualité, finalement, j'ai eu le sentiment d'avoir cette fameuse sensation de satiété qui arrivait beaucoup plus rapidement. J'avais le sentiment que j'avais besoin de manger moins pour être rassasiée. Et puis, j'ai aussi constaté que j'avais une sorte de regain d'énergie. Et j'ai interrogé des nutritionnistes pour savoir si c'était une lubie, une vue de l'esprit, ou si c'était vraiment justifié, si c'était prouvé. La nutritionniste en question m'a expliqué que c'était assez logique parce que finalement, les fruits et légumes, par exemple, qu'on consomme en circuit court sont consommés très peu de temps après avoir été récoltés. Donc, ils contiennent encore tous les nutriments et une valeur nutritive vraiment très importante.
Donc, ça marche pour la nourriture, on l'a bien compris, fruits et légumes, viande, ça marche aussi pour le poisson, on peut le voir dans votre livre publié chez Flammarion. Mais alors, comment vous faites pour la lessive, le shampoing, la crème hydratante, bref, tout ce qu'on trouve normalement dans un supermarché? Réponse à venir sur RTL.
En faisant ses propres rouges à lèvres avec des Crayola.
RTL.
Pour faire notre propre poudre, on va mélanger de l'argile blanche en poudre car c'est ce qui va absorber l'huile et donc matifier la peau, et de la poudre de maïs, donc en fait de la maïzena qui matifie également.
La curiosité est un vilain défaut.
La recette du jour, c'est un produit nettoyant multi-usage que vous pourrez utiliser dans votre salle de bain. Pour cela, rien de plus simple. Il vous faut de l'eau, du vinaigre blanc, du bicarbonate de sodium et des huiles essentielles, arbre à thé, de citron, de cannelle en fonction de vos goûts et vos envies.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Des tutos pour apprendre à faire ses produits d'entretien et ses cosmétiques tout seul. Peut-être que ça a inspiré notre invité, on va lui demander. Notre invité Mathilde Gola qui s'est demandé si elle pouvait vivre sans aller faire ses courses au supermarché, quel gageur. Et elle partage avec nous ses trouvailles. Mathilde Gola, est-ce que vous avez dû forcément vous lancer dans la fabrication des produits d'entretien?
Exactement.
Si vous avez respecté votre défi de ne pas mettre les pieds au supermarché. Par exemple, comment vous avez fait pour, vous savez, tous ces produits qu'on utilise pour laver nos lavabos, nos miroirs, on fait comment?
Le sol, oui.
Exactement. Et ben en fait, j'ai dû tout revoir et je me suis basée sur 3 produits, le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude et le savon noir. Et avec ça, en fait, on peut nettoyer toute sa maison. Et j'ai appris à faire des produits moi-même et par exemple, pour nettoyer le calcaire dans la salle de bain, finalement, il suffit de faire chauffer un peu de vinaigre blanc et c'est très efficace.
Faut l'utiliser chaud.
Oui, et c'est plus efficace en tout cas. Enfin, j'ai pu constater que c'était plus efficace comme ça, même pour déboucher ses éviers. En fait, on peut mélanger du bicarbonate de soude. Ensuite...
Oui, ça fait une réaction chimique.
Exactement, et ça fonctionne très bien en fait. Le seul inconvénient de ces produits faits maison, c'est que l'odeur en fait laissée dans la maison n'est pas celle qu'on a l'habitude d'avoir. Ça sent pas la fleur de tiare ou toutes ces choses là. Mais d'une certaine manière, c'est aussi assez rassurant quand on voit toutes les études qui sortent et qui nous montrent qu'il y a plein de perturbateurs endocriniens et tous ces produits un peu nocifs dans les produits qu'on peut acheter en grande surface. Donc ça m'a permis aussi de reprendre un petit peu le contrôle sur ma consommation. Donc ça, j'ai trouvé que c'était assez gratifiant.
Alors, on a nettoyé toute la maison, on est très fiers de nous. Maintenant, vous savez, il y a la montagne de linge là, lessive à faire. On fait quoi sans lessive?
Et ben, en fait, il faut la fabriquer tout pareil en fait. Et donc là, moi, j'avais eu un peu de chance parce qu'au tout début de l'expérience, je m'étais rendue à Marseille. Donc, on m'avait recommandé une adresse d'un savonnier artisanal, un des derniers savonniers artisanaux qui existe encore. Et j'avais été observée un peu comment sont fabriqués les savons, mais aussi les pastilles de lessive, parce qu'ils vendaient des pastilles de lessive. Donc, je suis repartie chez moi avec un sachet de pastilles de lessive que j'avais payé donc 6,50 €. Et là, j'ai donc mis à profit la recette qu'on m'avait donnée. Et c'est très simple. En fait, il suffit de faire bouillir de l'eau, de mettre quelques cuillères de pastilles de lessive, d'attendre un petit peu. Si on veut, on peut ajouter un peu d'huiles essentielles pour avoir une odeur un peu agréable, mais c'est pas indispensable. Il faut attendre quelques heures et comme ça, le produit se solidifie. Et ensuite, c'est exactement la même lessive.
Mais attendez, pour 6,50 €, vous en avez pour combien de lessive?
Moi, j'ai fait pour plus d'un an de lessive avec 6 €, en dépensant seulement 6,50 €. Et c'est c'est ce qui a contribué en partie à réduire toute ma note et toutes mes dépenses. Parce que tout à l'heure, on a dit que ça m'avait coûté moins cher, mais c'est aussi grâce à la fabrication de mes propres produits d'entretien.
Et vous donnez toutes les adresses, tous les conseils dans votre guide 100 jours sans supermarché aux éditions Flammarion. On retrouve tout ça?
Oui, on retrouve tout, effectivement.
Alors, il faut quand même être honnête, ça marche pas pour tout. J'imagine qu'il y a des produits sur lesquels vous vous êtes planté, quoi. C'est pas si simple.
Oui, exactement. Bah, notamment, j'évoque le dentifrice parce que c'est évidemment un produit qu'on achète régulièrement en grande surface. Donc là aussi, j'ai dû mettre la main à la pâte. Et donc, on m'avait donné des indications. J'avais suivi une recette et j'avais au passage appris que les produits industriels vendus en grande surface sont assez dangereux. J'avais notamment appris ce que je ne savais pas, que le fluor était très dangereux, et notamment pour les enfants. Un petit bébé qui avalerait un tube entier de dentifrice qui contient du fluor est même en danger de mort. Donc j'étais assez stupéfaite d'apprendre tout ça. Donc bien heureuse d'apprendre à faire moi-même mes propres cosmétiques. J'ai mis en application les recettes qu'on m'avait indiquées à base d'argile blanche et d'huiles essentielles, encore une fois.
Et ça marche bien?
Ça marche bien, mais pour être très honnête, j'ai pas été parfaitement satisfaite parce que je suis pas habituée à ce type de produit. En fait, ça laisse pas la fameuse fraîcheur que peut nous laisser le dentifrice habituellement en bouche. Et voilà, il y a pas. C'était une question probablement d'habitude. Donc j'ai persévéré tout au long de l'expérience. Mais c'est vrai que aujourd'hui, si j'ai conservé un grand nombre de réflexes, mais pas celui-ci. En revanche, j'ai revu ma façon d'acheter et mes réflexes de consommatrice ont été grandement modifiés.
Merci pour cette proposition de nouvelle vie, Mathilde Gola. 100 jours sans supermarché, c'est le premier guide des circuits courts et c'est publié aux éditions Flammarion.
Vous écoutez RTL.